Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Priska. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles.
Cet épisode a été enregistré en mars 2022. Fania Noël est née à Haïti et a grandi à Cergy dans le Val d'Oise. Militante et essayiste afroféministe, elle s'est installée à New York afin de poursuivre son PhD en sociologie à The New York School for Social Research. Sa thèse porte sur la spatialisation de la politique noire en France. Elle travaille aussi sur les cultural studies, notamment les questions de race-genre dans la science-fiction. Co-fondatrice et directrice de publication de la revue Assiégée, elle a passé 5 ans au sein des collectifs afroféministes, Moissy, en charge de l'idéologie politique et de la formation. Actuellement directrice de publication de la revue féministe haïtienne Alasso, Fania Noël a accepté de partager son analyse au micro des enfants du bruit et de l'odeur à partir de son livre « Et maintenant le pouvoir », un horizon politique afroféministe paru aux éditions Kambourakis en mars 2022. Dans cet épisode, elle aborde le militantisme comme moyen de construction d'un projet commun, la sortie des filles noires du système scolaire de manière silencieuse, les attentes de la société et de la famille envers les personnes racisées. Alors prenez place et bonne écoute. Fania Noël, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu vas bien?
Oui, ça va bien. Je suis un peu fatiguée, mais ça va.
Tu es de passage rapidement sur Paris, en France, parce que tu ne vis pas ici, hein, je le précise.
Oui.
Je vais te laisser te présenter, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditorices, dire un peu qui tu es, ce que tu fais avec tes mots?
Je m'appelle Fania Noël. Je suis afroféministe, militante, mais... plus pour très longtemps maintenant.
Ah.
Je suis actuellement dans un programme doctoral en sociologie à The New School for Social Research à New York. Je travaille sur les études noires, africana, les féminismes noirs et cultural studies. J'ai cofondé une revue qui s'appelle la revue Assiégée, qui est une revue qui porte sur l'intersectionnalité. J'ai fait partie pendant 5 ans, de l'organisation afroféministe Moissy, qui est basée en Ile-de-France. Et maintenant, je suis dans le board of directors de l'organisation Black Feminist Future, qui est basée aux États-Unis, à Atlanta, Georgia. Et je suis directrice de publication d'une anthologie des féministes haïtiens dont le second numéro sort en avril à l'occasion de la journée nationale du mouvement féministe haïtien. Donc voilà, et je fais des choses et j'écris des livres maintenant, vu que c'est le deuxième.
Mm-hmm. Bah, ça fait beaucoup, mais tu fais comment pour vivre aussi?
Je dors, je suis très organisée sur mon temps et je dors 8h30 par nuit, qui fait que mon cerveau, quand il travaille bien, il a une bonne capacité de concentration.
Ah, t'arrives à dormir 8h30 par nuit quand même avec tout ça?
Oui, mais je pense que ce qui grignote le plus sur le temps des gens, c'est les gens qui ont le plus de courage, c'est les gens qui ont des enfants, parce que je n'ai pas d'enfants, donc je peux dormir 8h30 par nuit.
D'accord. Maintenant que tu t'es présentée, je vais revenir tout à l'heure sur une question parce que j'ai entendu quelque chose, mais on va continuer et puis je reviendrai un peu plus tard. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui était la petite Fania Noël? Ça s'est passé comment ton enfance? Te décrire un peu.
Qui était la petite Fania Noël? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de... je dirais pas extraverti, mais qui a des propositions, qui veut faire des choses à l'intérieur. Même quand j'allais à l'église, j'avais toujours des idées. On devrait organiser ça, on devrait refaire la peinture, etc. Mais je pense que c'est lié au fait d'être l'aînée d'une famille. Donc, je sais pas si c'est ma personnalité propre ou une personnalité qui s'est imposée à moi pour devant le nombre de responsabilités qu'on m'avait mis sur les épaules et que je n'avais pas demandé. Donc là, je sais pas, c'est quoi la balance.
Est-ce que tu avais combien de frères et sœurs?
À l'époque, 4. Maintenant, j'en ai 5.
D'accord.
Et quoi encore? Et après, je crois que je vivais beaucoup dans ma tête. Mais en fait, je sais pas, parce que tous les êtres humains vivent beaucoup dans leur tête, mais je pense que je vivais plus dans ma tête que la
moyenne.
Que la moyenne.
Et c'est quoi vivre dans sa tête?
Bah, je sais pas, c'est-à-dire que il y avait toujours, je sais pas, j'extrapolais des fictions à travers des choses qui se passaient. C'est-à-dire, je dis souvent, j'ai pas d'imagination dans le sens, je peux pas écrire une histoire, mais il va se passer quelque chose et après, je vais imaginer tous des dialogues entre des personnes.
Tu te bases du réel et après, tu vas construire.
Exactement. Donc, je passais beaucoup de temps comme ça, donc voilà.
Et c'était où tout ça, en fait?
Dans 95.
D'accord. En région parisienne.
Région parisienne, en 95. On a fait tous les Cergy, hein, Cergy Le Haut, Cergy Saint-Christophe, Cergy Préfecture. Donc, on a fait les trois Cergy, les trois zones de Cergy.
D'accord. Et tu es partie à quel âge?
18 ans, cloc.
Je suis pile, je t'ai dit, 18 ans majorité, je m'en vais.
Ouais. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui est lié aussi beaucoup à la situation hein, de Fiennes. C'est un truc de... Enfin, c'est comme si tout ce que tu attends, c'est d'avoir du temps pour soi. Donc, à 18 ans pile, et j'étais vraiment... je me suis vraiment servi de l'école comme un moyen pour pouvoir. Donc, à 18 ans pile, je suis partie pour aller à Paris, pour continuer mes études.
Est-ce que tu as eu cette transmission en fait, de la culture haïtienne, de l'histoire de Haïti au sein de Cergy ou pas du tout?
Ah oui, moi, j'ai grandi en France, mais avec... dans une famille haïtienne classique, c'est-à-dire vraiment classique, c'est-à-dire que quand je vois, j'ai certains cousins qui sont haïtiens américains, pareil, c'est-à-dire que alors qu'on a vit dans des contextes différents, dans des pays différents, mais pareil, le fait que, par exemple, mon père il parlait que en créole et nous on répondait en français.
D'accord.
On mangeait quasiment que de la nourriture haïtienne à part rares fois. Les premiers trucs qu'on écoutait c'était que des choses haïtiennes. La radio était branchée beaucoup sur RFI mais sur les nouvelles en Haïti. En fait, il y avait vraiment quelque chose de très présent sur l'importance de la narration de la révolution haïtienne qui était vraiment super présent.
Ça fait partie aussi des choses qu'on n'apprend absolument pas à l'école en France. Quand tu parles de révolution haïtienne, on parle plutôt de passivité, mais pas de révolution, pas d'acte révolutionnaire.
Oui, et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont... Enfin, la fierté qui est liée à ça est tellement forte que c'était très dans le contexte. Dans un contre-discours, mais aussi ça enseignait la façon dont, par exemple, mon père a été un peu réfractaire par rapport à ce que lui disait l'école. Par exemple, je me rappelle un jour, il a été convoqué parce que je parlais pas, enfin pas parce que je parlais, mais c'est-à-dire je n'étais pas quelqu'un de très sociable et il était là, et il a fait il a fait mais elle a des bonnes notes, ah ok, et après il est parti,
le débat est clos,
il est parti et aussi sur le côté réfractaire et suspicieux qu'il avait par rapport à l'école, c'est-à-dire qu'il a jamais cru jamais cru vraiment ce que l'école disait à propos de ce que je pouvais faire ou pas. Donc ça a permis ça et je pense que ça s'est nourri de sa position en tant que haïtien et comment il lit l'histoire d'Haïti et comment il lit sa présence ici. Et je pense que c'est du fait que maintenant il est c'est du fait que je pense qu'il a jamais il est venu, il y a des histoires d'immigration différentes, les gens ils viennent et après ils s'adaptent, etc. Mais je pense qu'il avait une frustration d'être là et que son but c'était de pas de rester là.
Il n'a pas choisi de rester là.
Et voilà, c'est-à-dire qu'il a Et en plus, il restait. Et après, à partir du moment qu'on est venu plus jeune, il partait, il restait six mois.
T'avais connaissance de ton histoire parce que ton père était fier de cette histoire.
Voilà, c'est ça.
Et qu'il avait un ailleurs aussi.
Voilà, un ailleurs qui était très, 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 très présent. Et que l'ailleurs, et après, est redevenu sa vie parce qu'au moment où il a pu, il est parti.
D'accord.
donc voilà. Donc, je pense que c'est ça. Donc, ça n'a jamais été un problème. Donc, il y a 4 ans et demi, je suis allée m'installer en Haïti. Je parlais pas bien créole, parce que comme on répondait tout en français, que parler c'est quelque chose qui se travaille avec la langue, mais par exemple je pouvais lire et je comprenais tout, c'est-à-dire même les expressions les plus particulières, etc. Je comprenais tout, et après ça, c'est, je me suis habituée à parler pour avoir bon, j'ai un accent horrible, mais pour être plus habituée pour exercer. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté, les référents culturels, et le fait aussi, par exemple, dès qu'on a eu 13 ans, on allait en Haïti tous les 2 ans, genre on restait 2 mois entiers, ouais. Nous tous, avec nos cousins, etc. J'ai un frère et une sœur, eux, ils sont, enfin, quand ils étaient adolescents, vu que ça se passait pas très bien, on les a envoyés en Haïti, ils sont restés 3 ou 4 ans, et après ça, ils sont retournés, habités, tout seuls. J'ai une sœur, de temps en temps, ce qu'elle fait tous les 1 an et demi, elle prend 6 mois, et elle part 6 mois, elle a ses amis là-bas. Très vite, par exemple, quand j'ai 19 ans, j'y suis allée tout seule, c'est-à-dire je payais mes billets tout seul, et j'ai arrêté ce truc que les gens que je connais, c'est mes cousins. Donc j'ai eu mes propres amis, j'ai été vraiment proactive dedans, et je me suis fait mes propres amis qui n'étaient pas liés à ma famille, et le fait de faire mes propres amis, j'ai rencontré d'autres groupes d'amis et des gens que j'ai des intérêts sociaux et politiques avec eux. C'est-à-dire que, pas basé sur le truc, mais vraiment basé parce que on est féministes, ou on a des mêmes goûts sur les trucs, et aussi on est de la même génération, donc on sort, sinon quand ils viennent visiter, on se voit. Donc qui a fait que quand je suis retournée habiter en Haïti, ça a été plus facile l'inclusion, et j'ai pris un appartement toute seule.
T'avais déjà été sociabilisée,
et
en fait.
Ouais, voilà, c'est-à-dire il y avait pas ce truc de les gens que je connais, c'est que mes cousins. En fait, j'avais déjà des groupes d'amis, c'est-à-dire que j'ai pu m'insérer dans un mode de vie qui correspond à ce que moi j'aime comme mode de vie quand j'habite dans les villes, dans les grandes villes où j'aime habiter, où j'aime sortir, ce que j'aime faire avec des gens faire, alors que si je serais allée là-bas en juste fréquentant comme mes cousins et leur et ce que eux ils aiment faire, je pense que j'aurais été vite frustrée et ça aurait été ce serait pas passé pareil.
Mais tout ça a été possible quand même parce que t'as eu une culture très présente au sein de ta famille et que tu t'es sentie à l'aise pour pouvoir après bouger par toi-même, rencontrer d'autres personnes. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas cette culture au sein de la famille et qui après reviennent dans les pays de leurs parents, dans leur pays, c'est quand même compliqué puisque tu n'as pas déjà cette confiance, on va dire, t'as pas été baigné dedans et tu dois tout réapprendre, toi.
Oui, il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le fait que ça a jamais été, un endroit de... Enfin, ça a été l'endroit où tu vas en vacances et parfois tu t'ennuies. Ça a été l'endroit où tu... mais en fait, tu t'ennuies genre les premières semaines parce que tu te dis « Ah, on va nulle part », mais après, tu te rends compte tout ce que tu peux faire. Et aussi parce que je pense qu'il y a une détente. Parce que quand on est intime, mon père était détendu. C'est-à-dire que alors qu'en France, on pouvait sortir nulle part. Là, on sortait, ça savait pas où on était. On revenait, on avait le temps de faire le tour de la ville, d'aller jusqu'à Pétionville en tap-tap. On revenait rien à faire. Donc, ça veut dire que le niveau de gambadage qu'on a pu faire, et je pense que ça n'a jamais été un lieu de cauchemar. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils grandissent, et je peux en parler, je parle avec les haïtiens américains, haïtiens français, dont les parents sont jamais allés, ils sont jamais allés, tout ce qu'ils retiennent, c'est, ce qui arrive des nouvelles, la violence, etc., qui est un lieu de chaos et de violence totale. Donc, il y a toujours un truc de, non, mais t'es allé et t'as fait le tour tout seul. En 2012, j'ai pris une moto, j'ai pris des bus, mais ça, c'est en Haïti. Et t'as pris un bus. Et oui, j'ai pris un bus et je suis allée, je suis sortie avec mes amis. Attends, et tes amis, et t'as du tout payer? Je fais non, j'ai des amis, parfois je payais, parfois ils payaient. Il y a plein de gens différents qui habitent dans ce pays. Donc ça n'a jamais été que un lieu de réceptacle de cauchemars et de traumas, etc. Ça a été un lieu, et comme ça a été un lieu, comme j'y ai habité, bien sûr, ça a été un lieu de violence parce que j'ai subi les, on a les la descente lente de dû à la corruption, de manifestations, de pays lock, d'injustice, etc. Mais un lieu où aussi c'était un lieu où ben il y avait mes amis, où on allait manifester, de mobilisation sociale, de création, où on arrive, où un lieu où on peut se sentir libre, un lieu où j'ai créé des choses et des liens. Donc ça a jamais été un lieu qui était juste quelque chose de très
négatif,
hein. Négatif, mais qui est beaucoup plus complexe et un attachement. Et c'est parce que ça a été ça dès le départ que maintenant, même avec la situation qui est extrêmement compliquée, avec les kidnappings qui est extrêmement extrêmement compliqué, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de tristesse, de quelque chose où j'aimerais retourner, et de toutes les possibilités qui sont gâchées, plus que oh mon Dieu, c'est un lieu qui est tellement damné, ou c'est un lieu qui est tellement que je vais pas y retourner. C'est-à-dire que j'arrive à me projeter dedans, et je pense que y a pas que moi, mes frères et sœurs aussi, ils y vont tout seuls. C'est-à-dire que je pense que s'il a réussi ça à Monsieur Noël, c'est que ses enfants, ils ont plus besoin de lui, et parfois ils se plaignaient de ça.
T'avais plus besoin de moi, comment ça?
Ouais, ils se plaignaient de ça, c'est qu'ils venaient, on vivait nos vies, et on faisait ah, on est là en fait.
T'avais plus besoin de lui comme guide,
et
en fait.
Voilà, c'est ça.
Et c'est rigolo parce que dans ton livre, tu en parles d'ailleurs à un moment de, alors c'est par rapport à un personnage, mais de ce côté soit ange, soit démon.
Oui.
Mais de se dire, bah, c'est pareil par rapport à certains pays, c'est soit tout, soit on va dire, ah non, mais ils ont le sourire.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Ou alors, ah non, mais là-bas, c'est la guerre, hein, c'est les plus pauvres, hein, c'est,
exactement.
Voilà. Donc, de dire, pas de nuance, pas de complexité. Donc là, dans la façon dont tu le décris, c'est un peu la même chose, hein.
Oui, c'est ça, c'est que, on peut pas juste effacer le fait que 12 millions de personnes vivent encore dedans. Soit on dit que 12 millions de personnes
sont à côté de la PAC.
Et voilà, vivent dans, tu vois, et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent pas partir à cause des trucs des visas, mais il y a des gens qui pourraient partir. Donc et il y a des gens, même malgré ça, ils veulent pas partir. C'est-à-dire que s'il y a toujours 12 millions de personnes qui vivent dedans, il faut leur accorder le crédit qu'il y a quelque chose qui fait qui reste. Et c'est pour ce quelque chose que ben qu'on essaye de penser comment on change les choses. Donc moi je pense ça, mais moi je pense que le fait d'avoir connu différemment et d'avoir des souvenirs extrêmement forts qui soient joyeux, drôles et extrêmement positifs, mais très jeunes. Et après, en étant plus âgé, avoir son propre réseau de socialisation, ça a permis, c'est-à-dire, ça, c'est pas que un endroit où, ce sont des relations familiales. C'est-à-dire, c'est pas qu'un endroit, je sais que j'ai des cousins à Haïti, c'est, oh, où il y a des cousins à qui parfois ils envoient des Western Union, mais ils ont pas de relations avec des personnes qui ont leur âge, de la même façon dont ils ont des relations avec avec des personnes qui ont leur âge dans la ville où ils vivent. Donc c'est une altérité complète. Alors que je pense que c'est vraiment important d'avoir sa propre socialisation avec des gens qui partagent des choses qu'on aime, ce qu'on est, pour le pas pour s'éloigner que des trucs de sa famille, pour dire mais en fait j'y vais pour autre chose que pour cette relation famille machin etc, qui si elle est distendue et plus elle est loin, ben elle devient moins
complexe.
Pérenne. Oui, elle peut être complexe et moins pérenne.
Et je pense que ça peut changer tout au niveau du regard et la façon dont on ressent notre expérience quand on rentre.
Oui, et surtout il y a beaucoup de gens qui basent leur compréhension du monde social dans ces pays d'origine basée sur les membres de leur famille. Ça veut dire que bon, ils ont une image des différents membres de leur famille et les membres de leur famille sont là pour leur traduire le monde social. Ah, il faut pas aller là, les gens machin, etc. Et ils pensent que c'est ça, alors que non, en fait, Peut-être si vous rencontrez d'autres gens, ben, y a d'autres choses que vous verrez. Si c'était pour le monde de ma famille, j'aurais jamais su et jamais connu tout ce que faisait le mouvement féministe haïtien, des personnes qui ont mon âge. Jamais connu mes amis à qui on adore, on est des fanatiques de cocktails, on connaît les meilleurs endroits pour prendre des cocktails à Port-au-Prince. Des choses comme ça et des différentes façons de vivre et différentes de voir comment... Enfin, comment on navigue différentes activités, ça c'est vraiment important. Je sais que par exemple, j'ai une de mes sœurs, ça c'est pas mon truc. Elle adore la randonnée. Elle adore la randonnée.
Tu vois, c'est pas mon truc. Hein.
C'est pas mon truc. La randonnée, il y a plein de Haïti, c'est un pays montagneux, il y a plein d'endroits pour aller faire de la randonnée. Et après, donc si c'était pour le monde de la famille, c'est « Oh non, on peut pas faire ça, tu prends une voiture, il y a une voiture, on va machin, etc. » Et elle avait ses propres amis, ils ont marché du haut, parce que c'est en montagne, ils sont allés tout un point culminant au-dessus de Port-au-Prince et ils ont fait une randonnée qui dure à peu près, je pense, 9 heures pour arriver au sud d'Haïti en traversant la montagne. Mais elle aurait jamais pu faire ça. Avec les membres de la famille qui te disent, mais quelle idée tu allais souffrir de la chaleur, marcher, etc., alors que nous avons une voiture. Nous avons une voiture et c'est ce truc où ils essaient de faire en sorte que c'était une idée un peu folle qu'elle avait parce qu'elle était une diaspora, alors qu'elle s'est trouvée des groupes d'amis bien haïtiens, machin, qui faisaient ça tout le temps, qu'elle est en randonnée, qui faisait du yoga dans les montagnes, etc. Et il y a cette chose qui revient souvent quand t'entends les gens de la diaspora, oh non, mais ça, on fait pas ça, au bled, on fait pas ça, eux, ils savent pas ça. Après, j'ai dit, non, vous connaissez pas tous eux.
Oui.
Et vous avez juste projeté ça. Vous avez juste dit ça. Parce que quand moi, j'ai te dit, quelqu'un a fait, ah oui, mais tes trucs féministes, en Haïti, ils font pas ça. Ben, ils ont un mouvement féministe qui a fêté ses un siècle, il y a cinq ans. Ah bon, je savais pas. Mais oui, mais parce que c'est pas possible de projeter comme ça et ça, c'est dangereux, mais moi, je pense que c'est le fait de juste se faire traduire la réalité sociale par les membres de sa famille. Et je pense que les gens devraient penser au fait qu'ils laisseraient jamais leurs parents leur traduire la réalité sociale
en France.
Oui,
c'est
ça,
en France.
Parce que sinon, ils resteraient juste chez eux, voilà, aller travailler, mettre leur argent dans des tontines et ne rien faire. Donc, ils laisseraient jamais les membres de leur famille en France leur traduire la réalité sociale, là où il faut aller, là où il faut pas aller, ce qu'il faut faire, etc. Quand ils essayent de faire ça, ils font « Ah ouais, oui, oui. Oh, yeah. » Et après, ils font quand même.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Vu comme ça, oui. Quelles ont été les figures qui t'ont forgé? Parce que je pense que tu n'es pas née afroféministe. Qui t'a un peu forgé ton esprit critique et ton analyse et la façon dont tu te développes aujourd'hui?
Bon, c'était pas pendant l'enfance, c'était plus... parce que pendant l'enfance, les figures que j'avais, c'était plus les figures de la Révolution haïtienne, donc c'est un peu violent.
Je sais pas. Non, mais il y a des gens qui disent que des bébés, ils étaient déjà prêts.
Non, mais je pense que c'est plus quand t'es jeune adulte et... contrairement, bon, c'est un paradoxal là où j'ai fini maintenant. Je détestais lire les livres de sciences humaines. Ah, je suis allée en sociologie, je détestais lire les livres de sociologie. C'est comique. C'est comique. Maintenant, on peut voir le comique de la situation. Mais j'apprenais beaucoup de choses dans les romans. Donc, j'avalais des romans et je pense que les romans de Toni Morrison, de Marie Scondé, Maria Baba, Edwige Nantica. Enfin, le roman de Edwige Nantica, Adieu mon frère, c'était extraordinaire parce que comme ça parle d'une sorte de migration, qu'elle quitte Haïti pour arriver dans une autre famille haïtienne, il y avait des liens, même si c'était pas en France, de familles haïtiennes de quand tu arrives. Donc voilà, donc je pense que c'est plus ça. Et c'est les romans après qui m'ont donné envie de plus lire les livres de sciences sociales d'un autre œil. Par exemple, si je me suis mis à plonger plus de manière plus soigneuse dans la lecture de Pierre Bourdieu, c'est parce que j'ai beaucoup aimé Annie Arnaud.
Oui.
Oui, en fait, je pense que c'est les romans. En lisant des romans qui m'ont poussé à me dire bon, allez, souffle un bon coup. Et
tu vas aller en profondeur.
Je vais aller en profondeur, donc lire Steinbeck et pour ensuite lire les choses sur, sur les États-Unis, le capitalisme, etc. Mmh. Donc voilà, non, les romans, ça a vraiment été ce qui m'a donné du courage pour traverser beaucoup de livres de sociologie. Et ensuite, quand je suis allée en sciences politiques, et ensuite, après, il y a une autre étape, ça c'était avant que
je devienne... T'avais quel âge à peu près?
Je pense 18-23 ans. Et après, il y a une autre étape quand j'ai commencé à être militante dans des mouvements, on va dire, autonomes, avec la revue ACG, etc., mm-hmm. autour des années 2013, tous les mm-hmm. trucs comme ça. Où pendant une période j'ai dû me mettre à lire beaucoup pour oui. apprendre des nouveaux concepts, pour désapprendre ce que j'avais appris dans les tentatives que j'avais fait dans les trucs plus mainstream. Et là, ça allait beaucoup plus vite l'apprentissage parce que c'était des modes d'apprentissage qui étaient liés à des luttes et des analyses de luttes. Mmh. Donc je me suis rendu compte que c'était pas que j'étais réfractaire à lire des livres de sciences humaines, c'était qu'ils étaient présentés sur un angle que je voyais pas l'intérêt, j'arrivais pas à voir le but, et aussi parce que j'ai accumulé de la capacité de lecture à comprendre des mots, des choses qui fait que c'était beaucoup plus facile. Donc il y a eu toute cette période où je terminais mon master en sciences politiques, mais j'étais plus à l'université, j'étais dans la vie active, je faisais ma vie dans la vie active, et j'ai commencé à écrire des textes, à écrire des analyses. J'étais dans des organisations politiques, donc à écrire des analyses. Et toute cette période, je pense que ça fait, on va dire, un bon 5 ans. Et c'est après cette période, j'ai quitté la France après le camp d'été décolonial. Je suis allée au Canada, il faisait trop froid, j'ai quitté le Canada, je suis allée en Haïti. Toute cette période où j'ai fait beaucoup de choses, où il y avait créer ACG et lire beaucoup de textes, écrire des éditos, ça fait que j'ai pu accumuler cette capacité de lecture, d'écriture, de théorisation idéologique.
D'analyse.
Et ensuite, en 2020, je me suis dit j'avais besoin un peu de temps pour réfléchir à un sujet très particulier, et j'ai postulé en doctorat. Donc si j'avais pas pris cette pause pour apprendre correctement en dehors de l'université des savoirs qui étaient importants, je serais jamais retournée à l'université.
Et pourquoi quitter la France, justement? Pourquoi? Enfin, moi, je te dis ça parce que je vois qu'il y a beaucoup d'essayistes, d'intellectuels, de personnes qui réfléchissent sur ces questions-là. Enfin, beaucoup, quelques-unes que je connais, du moins, qui sont des femmes noires et qui quittent la France à chaque fois pour travailler sur ces questions. Pourquoi quitter la France?
Bon, c'est la deuxième partie de la question, pour travailler sur ces questions. Parce que il y a, est-ce que c'est, enfin, la difficulté, comment travailler sur ces questions ici coûte énormément, que les personnes qui peuvent travailler sur ces questions, c'est toujours les mêmes, hein. Et c'est mieux d'être blanc pour travailler sur ces questions et avoir un certain regard. On voit que le spécialiste de la question noire en France, c'est Pascal Blanchard. Oui. Donc, c'est un des problèmes. Et après, il y a tout ce qui vient avec le fait de, même si t'es admis à faire ta thèse, t'es pas financé, les conditions, et avec qui tu vas la faire. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes avec qui tu vas la faire où ce sera intéressant. Et après, les autres, ils vont pas t'apporter tant de trucs parce que techniquement tu connais plus de choses qu'eux. Donc le but de faire une thèse, c'est que t'es censé apprendre des choses pendant ces 4 ans, ces 5 ans, t'es censé être nourri intellectuellement, être mentoré, etc. Donc il faut aller dans des endroits où il y a assez de personnes, de chercheurs, mais même de collègues doctorants, qui fait que ta pensée, elle est nourrie, elle peut être avancée, et pas être la personne qui connaît plus le sujet dans la salle. Donc je pense que c'est pour ça que je fais ma recherche aux États-Unis, parce que c'est possible, mais j'ai quitté la France avant, après le camp d'été décolonial, parce que j'ai jamais eu aucune prétention à avoir une vie compliquée à cause du militantisme, et ou juste pour rester en France. Et je pense que, pour revenir à cette idée d'Haïti, la France n'a jamais été le centre de mon monde, c'est-à-dire que c'est un endroit où j'ai habité, mais depuis très longtemps, j'ai dit, ah, c'est possible de partir. Et c'est possible de partir, et pas que en Haïti, c'est-à-dire que ben, j'ai plein de familles aux États-Unis, au Canada, donc peut-être j'étais pas attachée tant que ça, en mode, ben, il faut que ce soit ici, et que je fasse que ce soit possible, donc j'avais un truc de, non, c'est possible de partir, de bouger, de déménager, etc. Donc, et en plus, c'était dans une période, il y avait plein de gens qui partaient au Canada, etc. Donc, je me suis dit, c'est possible que partir et après, tu peux revenir. Et j'ai trouvé un travail au Canada. Et après, j'arrivais pas vraiment à m'insérer au Canada. Enfin, pas m'insérer dans le sens assimilation, mais j'étais pas vraiment intéressée par ce qui se passe. Et je peux pas habiter quelque part où je suis pas intéressée par vraiment ce qui se passe. Parce que là, j'allais à mon travail, par mes amis que je voyais, il y avait mon travail et mes amis et puis rien d'autre.
Le Canada ne t'attirait pas plus que ça, en fait.
Voilà, le Québec, c'était pas, en fait, ce qui se passait, les mobilisations, le Montréal, ça me passionnait pas plus que ça. Je suis partie en Haïti et c'était plus, voilà,
ça ne correspondait plus.
Voilà, j'avais un engagement. Enfin, j'étais engagée émotionnellement. Je travaillais avec un média qui s'appelle Aibo Post. J'ai créé mon entreprise spécialisée en communication.
D'accord.
Donc, j'ai fait. La volonté de faire quelque chose. J'étais démarré un podcast sur les féministes haïtiennes. C'est-à-dire que j'avais vraiment la volonté de faire quelque chose. Et ça c'est quand t'es intéressée.
Et ça, c'était il y a combien de temps?
Ça, c'était en 2017.
On va passer un petit peu à ton livre, quand même.
Oui, oui.
Ce n'est pas ton premier. Hein. Et en plus, tu as coécrit pas mal de livres aussi avec le Moissy. Mmh. Et là, aujourd'hui, tu as sorti, en fait, Et maintenant le pouvoir, un horizon politique afro-féministe. Mmh. Alors, déjà, je l'ai trouvé assez facile à lire. Le dernier, je ne l'ai pas trouvé si facile à lire. Non, mais j'ai trouvé assez facile à lire. Donc, est-ce que c'est parce que je me suis habituée à ton style? Je ne sais pas. On a tendance à beaucoup analyser ce qui se passe en fait dans le monde des adultes. Mais tout ça prend place quand même, prend effet dès la petite enfance. Et que tu le dis très bien dans ton livre, c'est des choses qu'on apprend, comme là tu parlais du genre, mais des choses qu'on apprend, on va dire... dès la petite enfance sur les normes de genre, mais les normes raciales, je pense qu'on les apprend aussi dès la petite enfance, aussi bien les normes sociales pour savoir qui a quelle place et comment chacun doit interagir les uns avec les autres. À travers ce livre, tu parles par exemple de l'aliénation. Déjà, qu'est-ce que l'aliénation? Et après, je te demanderai en fait une aliénation dès l'enfance.
Donc, l'aliénation, c'est ce qui est utilisé souvent pour expliquer que une personne est aliénée, c'est-à-dire elle va contre ses intérêts personnels en alignant ce qu'elle veut, ses désirs, en alignant ses désirs sur ceux du groupe qui la domine. Ça veut dire, on est de la classe populaire et on va défendre le fait qu'il y ait le moins de taxation pour les riches. Donc, on aligne son désir avec quelque chose qui va contre ses intérêts et on les aligne sur les désirs de la classe qui vous domine. Et je parle de classe en termes général, classe des hommes, la classe sociale, la classe des noirs, on va dire. Et ça, on dit que c'est l'aliénation. C'est parce que la personne ne voit pas comment les intérêts des riches et sont séparés de ses propres intérêts et que le système a fait en sorte que il y a une transformation, on va dire, psychologique ou psychique qui fait que la personne ne voit pas que ce qu'elle est écrasé et ce qui irait dans son sens, dans son épanouissement, est écrasé et nié pour la faire voir que les intérêts des groupes qui la dominent. Donc ça, ce serait l'aliénation. Et dans le livre, ce que je dis, c'est que analyser tout au prisme de l'aliénation, c'est ne pas voir que les gens, en fait, c'est pas une question d'aliénation, mais ils vivent, la race n'existe pas toute seule, le genre n'existe pas tout seul, la classe n'existe pas tout seul, et parfois les intérêts, il y a des intérêts contradictoires des identités ou des places qu'ils occupent, et ils choisissent de défendre des intérêts intérêts de la catégorie qui peuvent les amener le plus loin individuellement. Mmh. C'est-à-dire, je ne sais pas si on est...
Classe sociale, par exemple, voilà. Une jeune femme noire bien née ne défendrait pas forcément, dans ces cas-là, une jeune femme noire de notre classe sociale. Ou n'ira pas dans... Pas une, mais n'ira peut-être pas dans l'intérêt du groupe...
Noir ou femme noire, c'est-à-dire qu'une personne noire riche va supporter Valérie Pécresse, par exemple, même si c'est pas contre les intérêts généralement des personnes de son autre groupe. Voilà. Mais en termes de court-termisme, pour son propre intérêt, ça se joue. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça que j'essaie de dire, c'est que oui, la question de l'aliénation, mais... si on voit tout au prisme de l'aliénation, on n'arrive pas à voir que des personnes, c'est pas qu'ils sont aliénés, ça sert à rien la pédagogie avec eux, c'est juste des ennemis politiques et qu'ils ont vu que ils veulent pas être dans l'équipe des perdants, donc ils misent.
Ils ont un autre intérêt.
Voilà, ils misent sur l'équipe qui peut les apporter les plus loin.
Même s'ils vivent en fait des violences au sein de cette équipe.
Oui, voilà, mais ils pensent que bon, ils vont aller plus loin avec cette équipe et vous là, bonne chance.
D'accord.
Et dire que, de manière générale, tout individu qui naît dans cette société telle qu'elle est faite, avec la superstructure et l'idéologie hégémonique de violence, d'hétéropatriarcat et de capitalisme, vit quelque chose qui, dans un bain qui est aliénant pour l'idée de liberté, de bonheur et de partage des biens. C'est-à-dire pas le penser au point de vue individuel pour retourner à un endroit où on pouvait être désaliéné, mais plus pour dire que comme personne peut y échapper, en tant qu'organisation politique, en tant que personne qui veut proposer autre chose, on doit dire que tout individu qui naît actuellement dans ce bain de violence et de non-respect, d'altérisation, subit quelque chose qui va contre ses intérêts lorsqu'on pense que les intérêts des êtres humains, c'est de vivre dans une notion de liberté, en dehors de la violence qui n'est pas nécessaire, et apprendre à vivre dans le commun avec les autres êtres humains, avec soi-même, mais avec les autres êtres vivants. Moi, je pense que la famille, par exemple, en fait, je pense pas que les gens, quand ils sortent de la famille, c'est là où il est plus violent. Je pense que c'est là où, lorsque la violence est rencontrée, comme elle n'est pas mélangée et elle n'est pas contrebalancée par des formes qu'on considère comme de l'amour et de l'affection, on la voit de manière plus claire. Parce qu'en fait, là par exemple, je suis en train de relire All About Love de Bette Lux pour un travail. Parce qu'en fait, il y a plein de formes de violence qu'on apprend, qu'on subit à l'intérieur de la famille.
Bien sûr.
Mais c'est parce qu'elles sont entrecoupées, entremêlées, comme dirait Bette Lux, de formes de soins, de prise en charge, qu'elles sont atténuées ou qu'elles sont analysées comme... En fait, c'est la contrepartie. Alors que lorsque on va dans d'autres milieux, les autres personnes ne donnent pas du soin, on n'habite pas avec eux, parfois ils ne sont pas gentils, etc. Donc, il n'y a pas d'autres souvenirs qui viennent. Donc, quand la violence est rencontrée, elle est juste de frontale de la violence. Et je parle ça surtout pour les violences de genre. Parce que là où les enfants, surtout les jeunes filles, les minorités de genre rencontrent la violence et en particulier la violence sexuelle, tous les chiffres le montrent, c'est pas dehors, c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur de la famille. Et après, on va voir que c'est quand ils deviennent plus âgés qu'elles peuvent en dire plus parce que il y a cette distance. Alors que lorsqu'on est adulte, on arrive à plus voir ça venant de gens qu'on connaît pas, qui sont pas supposés prendre soin de nous ou être dans une communauté avec nous comme ils font la communauté familiale. Donc je pense que il y a des formes enfin d'aliénation, si on parle d'aliénation, d'aller contre ses propres intérêts qui ont lieu dans la famille, surtout sur ses propres intérêts de genre et sur comment on inculque aux enfants et surtout aux filles de se sacrifier pour tout ou d'avoir une politique où il y a une politique sexuelle et de genre pour dire, pour les préparer à se sacrifier derrière ou à faire tout, ça veut dire que tous les discours sur le genre ne sont pas égaux, parce qu'il y a des discours qui sont racialisés, il y a des discours qui sont plus en mode « Oh, t'es une petite chose fragile, un homme va prendre soin de toi, donc sois gentil, sois jolie. » Et après, il y a d'autres discours sur le genre qu'on retrouve beaucoup dans les familles noires caribéennes, c'est « T'es pas fragile, de toute façon, sois forte, personne va prendre soin de toi. » le mieux, c'est trouver quelqu'un. Et si tu trouves un homme, ben, il faut que tu prennes soin de lui. Mais il n'y a pas ce côté de tu es fragile. C'est-à-dire que tu dois prendre des responsabilités. Donc, il y a ça qui est important. Il y a aussi plein de normes, genre le colorisme. Dans un pays comme la France, la question du colorisme, elle se vit à l'intérieur de, la communauté noire. C'est-à-dire que, les Blancs... Les Noirs, c'est les Noirs. En France, c'est particulier.
Il y a le métis, quand même.
Voilà, en France, il y a la figure du métis qui est particulière. Ouais. Mais à partir d'une certaine teinte, c'est pas pareil. Mais alors que dans les communautés noires, il y a différentes teintes. Et c'est même plus qui est plus clair, c'est qui est moins foncé. Voilà. C'est-à-dire voilà. Donc ça, c'est des formes qu'on apprend et qui sont comprises, qui peuvent être lues que à... Entre noirs.
Mais enfin, je précise parce que oui, dans ton livre, tu le dis très bien aussi. Tu dis que il faut faire attention à cette famille parfaite.
Oui.
Et je sens que c'est ce que tu veux dire quand tu
parce qu'en fait, ça, je pense que parce que après ça empêche les gens et ça empêche. En fait, moi, je pense vraiment en organisation politique, ça empêche les gens de rejoindre des organisations parce que si on leur dit on va se battre contre le racisme, le théopatriarcat, etc. Mais l'État. Et après, on leur dit, mais non, nos familles, c'était super. Nos parents, ils étaient super. Arrête, ils vont dire, mais vous êtes en train de mentir.
Non, bien sûr.
Et le truc, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas parce que des discours sont instrumentalisés à des visées racistes pour pathologiser, pour rendre... accuser les familles... non blanches, noires, d'être des mauvais parents, que ça doit nous rendre immobiles sur le fait que, il y a des pratiques, il y a des choses qui ne sont pas normales.
Mais est-ce qu'on est réellement immobile? Est-ce qu'on ne le sait pas tous, en fait?
Oui, parce on le sait.
Preuve, on en parle, hein, entre nous, on sait, en disant, mais ça, c'est pas normal.
Mais c'est le fait de comment on arrive à faire ça et comment on arrive... Parce qu'en fait, le combat, surtout antiraciste, antinégrophobe, c'est pas de dire que comme eux ils nous dépeignent comme des démons, il y a rien de bien, le contrebalancer, c'est de dire qu'on était des anges. Non, c'est d'être des êtres humains. Et les êtres humains, dans tous les groupes, c'est dire statistiquement, il y a pas de raison que statistiquement en France les chiffres sur les violences dans les familles et que par magie, parce qu'on serait exceptionnel, on serait un groupe différent, ça arrive jamais. En fait, dire non, ça arrive, mais ça arrive sur différentes formes, ça arrive mélangé à la question raciale, ça arrive mélangé à plein d'autres questions de migration, mais ça arrive quand même. Et la silenciation, ça fait jamais avancer des mouvements, parce qu'après, ça construit des mouvements sur des mensonges qui ne sont pas dits. Donc, c'est-à-dire à la même... Tant qu'on peut célébrer le fait que l'adversité qu'il y a eu de d'être dans une parentalité dans un pays aussi raciste, de dire que c'est pas que la question de la confrontation, parce que sinon les familles dans les pays d'origine seraient super et idéales, etc. Donc je pense que c'est ça, et je pense que la question de l'aliénation, c'est que la société aliène sur des choses différentes, parce que c'est sur des plus grands, c'est-à-dire sur vraiment vous mettre dans une case, c'est-à-dire que ce que vous avez appris culturellement qui fait votre spécificité à l'intérieur de votre famille, lorsque vous devez rejoindre les cohortes de travailleurs, doit être aplani pour faciliter l'assimilation, et surtout dans un pays comme la France, pour faciliter cette idée. Donc, il y a un seul citoyen, on ne voit pas les couleurs, mais on les voit, mais on dit qu'on ne les voit pas sur ça. Donc, c'est différent forme d'aliénation, alors que dans la famille, les aliénations qui sont, c'est sur le fait de est-ce que ce que vous êtes remet en cause ce que la structure veut être pour un autre groupe, et l'autre groupe, c'est pas forcément l'État. L'autre groupe, ça peut être le reste de la famille. C'est-à-dire, on entend souvent, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Mais les autres, c'est pas ce que l'État pense, c'est ce que les gens qui font communauté. C'est-à-dire que parfois, il y a des conflits entre les deux. Ce que l'État et la société demandent de vous, et ce que votre famille demande de vous, ce que culturellement vous voulez demander de vous-même, etc. Donc, c'est difficile. Enfin, vivre, c'est pas facile.
Non. Tu vas finir comme ça, là ? Vivre, ouais. C'est pas facile.
Oui, c'est vrai. Tu vois les choses en fonction de lui. Je pense que c'est important de s'organiser en fonction de l'école, en fonction du travail, en fonction de ce que vous voulez. La chose que je vois pas, c'est... ce que je vois, mais c'est plus ma réflexion personnelle. Mais comme ce livre, c'est plus une réflexion pour les organisations politiques. Les organisations politiques doivent être ancrées autour, comme tu dis, de l'école, d'un espace géographique, d'une question, la question noire, la question afroféministe, d'une lutte ou d'une demande.
Donc, et pas trop justement se généraliser au risque de se perdre.
Et de se perdre, de dire... je veux démoraliser personne, mais il n'y a pas d'organisation qui va mettre fin à la négrophobie. C'est pas une organisation, ça va demander un mouvement, une révolution genre intellectuelle, idéologique, philosophique, matérielle, avec de la violence, mais c'est pas les organisations qui font ça. Les organisations, ce qu'elles font, c'est qu'elles maintiennent le sujet dans le débat, même lorsque il n'y a pas de mobilisation Donc s'organiser autour de l'école, bien sûr, c'est super important. De créer des rapports de force. Tous les espaces peuvent être créés. On peut créer des rapports de force, le travail, l'école, s'organiser entre parents sur les manuels scolaires, sur soutenir les grèves des grèves des professeurs sur la façon dont on essaye de privatiser ou rendre l'école publique tellement défaillante que l'école privée va devenir
la norme
pour ceux qui peuvent se permettre et les autres, bon, bonne chance à vous. Donc c'est important. Mais il faut choisir. C'est-à-dire que lutter, c'est aussi délimiter des champs, vu que les individus et les organisations, à part si elles sont énormes, mais ça, il faudrait penser à l'échelle de l'État, c'est-à-dire c'est quand une organisation a pris l'État qu'elle peut penser tout et le généraliser à l'échelle de la société pour toucher tout le monde, parce que les organisations, ce qu'elles font, et surtout les organisations qui sont à la marge avec les personnes précaires, elles ne peuvent pas toucher tout le monde. Elles ne peuvent pas être partout. Donc, elles doivent trouver l'endroit où elles peuvent faire la différence, où elles ont la force de faire la différence, et aussi sur la constance et la durée. Et ça, c'est un choix qui peut être difficile, mais qui est nécessaire pour avoir un travail qui vaut le coup.
Mais moi, je me pose quand même la question, du coup, parce que soutenir l'école, c'est une chose, soutenir les enseignants, par exemple, c'est une chose, mais ces enseignants, en fait, peuvent se servir de ta force de soutien, mais qui ne vont absolument pas dans ton sens, parce que le racisme contre les enfants noirs, c'est aussi des enseignants blancs qui vont le faire parfois au sein de l'école. Donc toi, tu vas soutenir, en fait, une cause qui n'a absolument rien à voir avec toi.
Je pense que c'est soutenir, genre, je parle pas des enseignants en général, mais par exemple, quand les grèves, elles sont sur... les moyens, comme les moyens, c'est les enfants qui vont en bénéficier, il faut se souvenir ça.
Quels enfants ?
Les moyens sur, tu sais, genre, si on définance l'école publique, ils vont pas commencer avec Stanislas.
Non, c'est sûr.
Voilà. Donc, moins il y a de moyens, on sait où ils vont commencer à enlever l'argent. Donc, de toute façon, tant que c'est un truc pour couper les budgets, ils vont ni commencer avec Stanislas, ni commencer avec les écoles qui sont au métro convention. Donc, on sait quelle école où ils vont commencer d'abord. Et ensuite, il y a la question du rapport de force à l'intérieur de l'école sur le racisme à l'école, qui est là un genre d'autre lutte. Mais c'est pour ça que moi, je parle de la politique d'aller-retour. C'est-à-dire qu'en tant qu'organisation, on ne peut pas, surtout organisation sur le racisme à l'école, on ne peut pas avoir la force de faire les trucs sur les moyens. Donc ça, c'est les profs et les instits et les gens qui travaillent dedans qui ont les moyens avec des gros syndicats de le faire. Donc il faut leur laisser aller au front parce qu'on ne peut pas tout faire. et garder son énergie là où eux, ils font pas le travail, c'est-à-dire sur la question du racisme, sur la question du mal-être scolaire, etc. J'écris dans mon livre, hein, ni patron, ni mari, ni État, et la question de l'État qui est extrêmement problématique en France, surtout vis-à-vis des familles noires, surtout vis-à-vis des enfants noirs. Donc, on peut pas juste dire plus d'écoles publiques, plus d'écoles publiques, plus d'écoles publiques, mais dire... comment l'école publique comment on peut avoir des moyens de construire une école publique qui soit publique mais pas dans le sens de l'État mais publique dans le sens collectif de la collectivité, comment de manière plus collective et collégiale une école publique, ça veut dire qu'en fait que les instits, les parents, les éducateurs puissent avoir un mot à dire sur à quoi sert l'école. Mais ça veut dire être prêt aux batailles idéologiques parce que tous les parents ne veulent pas la même chose. Il y a des gens qui sont très contents de l'école comme elle est maintenant, ne veulent pas la même chose dans les manuels scolaires, veulent que certains enfants sont déjà pas super à l'aise avec certains enfants qui ont soit qui sont soit en situation de handicap.
Mais c'est l'État dit que justement l'État protège, oui. Puisque comme nous ne sommes pas d'accord, oui. Il protège et il fait en sorte de faire de l'égalité, oui, et de pas discriminer, alors que
c'est
totalement faux.
Exactement. Donc je pense qu'il y a une question sur ça. Comment en fait, comment enlever le fait que public, c'est synonyme, en fait, c'est l'État qui gère.
Comment vois-tu les différences de traitement, justement, entre les enfants noirs, selon le genre, ici, en France?
En fait, je pense qu'il y a... Il y a cette question d'hypersexualisation très jeune des petites filles, mais il y a une sorte d'hypersexualisation des garçons noirs ados, à partir quand ils ont 14 ans, 14-15 ans, avec le sport, le fait qu'ils sont vus comme des grands gaillards.
La virilité ou l'hypersexualisation?
Il y a hypersexualisation et virilité, c'est-à-dire il y a aussi comme un truc sur leur corps, mais il y a aussi le fait qu'ils sont vus comme déjà prêts à être performants de manière sportive, etc., plus grands, mais ça, c'est tous les enfants noirs en général. Et ensuite, sur les jeunes filles noires, c'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est que les jeunes filles noires vont être laissées à faire de la déscolarisation passive. À partir du moment qu'elles ne créent pas de problème, elles se mettent au fond, elles viennent, elles ne suivent pas, mais bon, ce n'est pas grave, elles ne créent pas de problème. Si elles ne sont pas, comme on dit, pas suspectées d'être trop bruyantes, etc., à 16 ans, elles vont disparaître et tout le monde s'en fout. Alors que les garçons vont être vus comme, bon, il faut voir s'ils ne vont pas créer de problème. Donc, il y a la question de créer de problème. Donc, ils vont souvent être exclus, donc avoir un dossier très, très long et être déscolarisés. Mais à la fin, elles sont déscolarisées. Et aussi, il y a la question de l'orientation, qui est assez problématique, dedans. Mais ce qui va se jouer, je pense, parce que moi, je connais, comme j'ai grandi comme une fille noire, qui va se jouer du côté plus individuel, c'est la façon dont les filles et les jeunes filles, surtout quand elles vont arriver à l'âge de l'adolescence, vont être confrontées à la réalisation qu'elles sont un stéréotype même à l'intérieur de leur communauté.
Ça veut dire
avec tous les trucs sur les insultes, les nafous, les noirs, ça veut dire le fait que elles sont que ce genre de stéréotype sur les jeunes filles noires comparées à des joueurs de football, sur leurs cheveux, parce que c'est elles sur lesquelles vont se porter le plus les discours, négrophobes sur les cheveux, les carnations, le nez, donc l'impact d'être noir foncé, est plus violent pour une fille parce que c'est très très jugé sur la beauté, que la beauté ça doit être la qualité numéro un du féminin pour réussir dans la vie, donc si t'as pas les attributs qui vont avec, c'est-à-dire être un peu clair ou beaucoup clair, la qualité des cheveux, la façon de s'exprimer, c'est-à-dire de pas être vue comme douce, de parler fort, etc., donc elles sont confrontées adolescentes à toute la violence des stéréotypes misogynoiristes et qui viennent pas forcément de l'extérieur, qui commencent dans la communauté. Et ça, Et ça, je pense que c'est ce qui revient souvent quand on parle aux jeunes filles, à quel point elles ont l'impression que tout le monde les déteste. Et quand t'es une adolescente, t'es pas censée te préoccuper d'avoir une idéologie poétique de ouf pour comprendre comment marche le système de domination. T'es censé juste vivre ta vie d'enfant. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis un peu précautionneuse sur les trucs, sur parler beaucoup de racisme aux enfants. Je pense qu'il faut, enfin, juste, il faut faire barrière et leur expliquer des trucs qui se passent, mais il faut leur laisser flex un petit peu.
Leur laisser, en fait, le temps de l'enfance, quoi.
Le temps de l'enfance et les laisser un peu flex. Tu vois, donc, on devrait pas être obligé de les mettre dans des ateliers à 10 ans pour leur expliquer la négrophobie, l'esclavage, le sens au machin, etc. Pour faire en sorte qu'ils comprennent. Et même ça, t'as pas un cerveau qui a fini de grandir. Même ça, c'est pas la peine que tu ressens d'être rejeté à un âge que c'est important d'être accepté. Ça va pas être apaisé parce qu'on t'a expliqué ce que Fanon il a dit ou ce que Patricia a dit ou Bell Hooks. Donc voilà.
Donc là tu parles plus en fait du fait de la façon dont nous-mêmes au sein de nos communautés on met en fait les enfants face à des situations compliquées, même si parfois ils n'ont pas eu accès à ces agressions racistes, c'est ça?
Eh, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, je pense que, bien sûr, il faut avoir une conversation, se réexpliquer, parce qu'ils vont aller à l'école et quelqu'un va leur dire un truc raciste, etc. Mais je pense pas qu'il faille plonger dans l'hyperformation à transformer des gosses de 15 ans en militants idéologiques. Et je pense que, aussi, il y a des choses qu'on apprend. Par exemple, quand on grandit à côté de personnes qui ont des convictions politiques, on les voit aller manifester, on comprend un peu qu'il y a une question qui s'appelle la justice sociale et l'égalité, que c'est l'égalité, c'est importante, etc. Sans à s'asseoir et dire, OK, aujourd'hui, on va parler des damnés de la terre.
Non, ça se fait naturellement, en fait, avec ce qui nous entoure.
Voilà. Et je pense et les enfants, ils absorbent l'éthique. Parce qu'il y a ce que les gens, ils disent et ce qu'ils font. Et quand on voit les différences de traitement en fonction du genre, en fonction de la couleur, et là je parle dans les familles noires, je parle en fonction de la couleur, en fonction de la teinte, parce qu'on se rend compte qui est traité comment en fonction de la carnation, du corps aussi, donc ils retiennent ça quand même.
Là, tu reparles du colorisme.
Oui.
Tu disais tout à l'heure que ça allait se faire naturellement un petit peu au sein de avec l'entourage, mais tous les enfants n'ont pas le même entourage non plus. Donc, il y a des parents, par exemple, qui ne vont pas aux manifestations, ne vont pas s'organiser, n'ont pas le temps, ne peuvent pas, ou ce n'est tout simplement pas leur personnalité ni la culture de la famille. Donc, ça se passe comment pour ces enfants-là?
Bon, de la même façon que l'État essaye de retirer les enfants, les organisations peuvent faire retirer les enfants à leurs parents. Donc, ce que les organisations peuvent faire, mais ça, c'est une question de moyens, de temps, ce qui manque beaucoup est d'argent, parce que on n'en parle pas, mais de moyens, de temps, et quand je dis moyens, c'est les moyens humains, financiers et de matériel. Et de faire des espaces où les parents qui sont intéressés mais qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas par où commencer, peuvent laisser leurs enfants.
Mais c'est les ateliers, c'est justement dans ce but-là.
C'est ça, les ateliers, c'est-à-dire leur dire, laisser leurs enfants ou leurs ados, lorsqu'ils ne peuvent pas prendre en charge, ils ne savent pas par où commencer, ou même pour eux, pour parler à d'autres personnes, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les organisations peuvent faire, de mettre en collectivité, en commun, des choses qui ne sont pas disponibles et ou qui sont difficiles d'accès. Et je pense que c'est important, surtout, on a une génération qui, dès 11 ans, 12 ans, j'imagine, c'est ça, ils ont un téléphone, ils ont accès à des choses. Donc, ça veut dire mettre des choses qu'eux, ils peuvent trouver tout seuls aussi. Ça veut dire qu'en fait, il faut se rappeler quand nous, on était ados, tous les trucs qu'on allait chercher, que nos parents, ils ne savaient pas. Donc voilà, et qu'on trouvait quand même. Donc, il faut aussi penser comment mettre des choses disponibles pour des ados qui cherchent sans que leurs parents sachent. Et parfois, il y a des ados qui cherchent à même en opposition avec leurs parents. Parce que moi, je vois comme on est dans une organisation féministe, c'est-à-dire des ados qui savent que ils sont dans des familles homophobes ou transphobes, donc ils doivent trouver ça sans que leurs parents en sachent, mais qui est accessible et disponible à leur âge. C'est-à-dire penser les ados qui cherchent accompagner leurs parents, penser les parents qui cherchent pour leurs enfants, mais penser dans une optique plus de libération, enfin, d'une optique de... C'est pas très courant ici, mais il y a un mouvement de children liberation aux États-Unis, c'est libérer les enfants du fait que de l'hégémonie totalitaire de l'idéologie familiale, parfois qu'on est, comme on fait, surtout dans un pays comme la France où on pousse la famille nucléaire, que tout doit être géré, il n'y a pas vraiment plusieurs personnes, plusieurs adultes où tout le monde doit aller, vers qui peuvent se tourner lorsque l'État, ce n'est pas une solution.
Justement, toi qui pousses, on a compris, au collectif, à l'organisation, au collectif. Je me pose la question, parce que tu nous as quand même lâché une petite bombe tout à l'heure. C'est quoi cette histoire de « tu n'es plus militante »
Non, j'ai dit bientôt. Parce que là, je sais, c'est mes derniers mois. Donc l'année dernière, j'ai quitté le bureau politique de Moissy. Donc je m'occupe là de cette année que les trucs sur l'Afrofemme Tour, les trucs qui sont plus transnationaux. Mais en juillet, je vais plus m'occuper de rien, c'est-à-dire je vais plus faire rien. Et c'est très... je vais faire plein de trucs, mais je vais plus faire quelque chose dans les sein du collectif. Mais c'est très important pour moi le fait que être... militante, c'est être dans un collectif. C'est-à-dire, c'est pas mon identité. C'est être dans un collectif. Et à partir du moment où je suis plus dans un collectif, je suis pas militante. Je reste engagée, j'ai des choses à dire. Mais je suis pas militante. Militante, c'est d'être dans un collectif qui essaye de mettre des choses en mouvement, mettre des gens en mouvement, faire partie d'un mouvement social, créer des momentum, on va dire, de mobilisation et créer un rapport de force. Mais à partir du moment où on n'est plus dans ces collectifs à faire le travail, pour moi, je suis pas militante, je suis autre chose. C'est pas grave parce que ça fait longtemps, donc je suis un peu fatiguée aussi. Donc il faut savoir aussi, ça veut dire c'est à tout jamais comme ça, etc. Mais parfois il faut savoir juste
prendre des comme t'as déjà fait la dernière fois quand t'es partie au Canada
prendre la distance, etc. Donc c'est important. Donc quand je serai plus, je serai autre chose. Je pense que ce que je vais être, c'est je sais pas comment on traduit en français, interventionniste scholar, faire en sorte que les choses que je produis, les recherches que je produis, la théorie que je produis, même si elle n'est pas universitaire, fasse une intervention dans le milieu politique et puisse être utilisée. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que je ferai une petite pause et peut-être je retrouverai une autre organisation que je reviendrai. Mais là, j'ai besoin d'une petite pause pour en général parce que ça fait longtemps. Voilà.
Vraiment super. Je voulais te remercier pour ton livre, pour ton temps.
Parce que le livre est vraiment... t'as dit que c'était écoute, facile
Moi, je le trouve très bien. Et je suis très étonnée pour beaucoup, beaucoup de choses parce que je te suis, en fait. J'écoute beaucoup d'interventions où tu es. Et en fait, encore une fois, on a tendance à mettre des gens dans des catégories et je trouve que tu as différentes facettes et la façon dont tu analyses les choses, comme tu fais des allers-retours et tu remets en question même ta propre vision en fait. J'ai vraiment beaucoup beaucoup adoré, donc je le conseille forcément. On y parle de colorisme, on y parle de l'aliénation, de la méritocratie. On parle de plusieurs thématiques qui sont très intéressantes et c'est pour ça que je tenais quand même à le dire qu'il est facile à lire et on peut nous-mêmes en fait cheminer sur notre réflexion. Donc bravo pour ton livre et voilà.
Merci, je suis contente que ça t'ait plu. Je pense que la personne que vous suivez sur les réseaux, c'est une version curatée, je pense qu'on dit ça maintenant en français. Cette version curatée de Fanny à Noël, c'est pas toute la version, et même le livre, c'est une version curatée de Fanny à Noël, donc il faut toujours faire attention à ce qu'on ce qui est présenté, ce qui est, mais il y a plein de facettes et je suis sûre dans d'autres livres, oui. Il y aura
encore d'autres. Oh oui, mais même dans un, pareil, dans un de tes écrits, c'était sur la famille justement. Oui. Pareil, j'ai découvert des, je me suis dit, mais waouh, faut que je la rencontre, Fania. Donc voilà. Bah écoute, merci à toi en tout cas d'avoir participé au podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et bah, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver encore à d'autres moments.
Bah, je voulais te remercier et je suis vraiment contente qu'au détour de ce passage, on ait pu enfin se rencontrer et enfin participer à ce podcast qui a un nom de malheur, comme on dit en créole haïtien.
Bon, merci en tout cas.
Merci.
Allez, à bientôt.
Vous venez d'écouter Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le, partagez autour de vous, suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.